Pour ce matin, j'ai choisi le passage le plus court de la Bible, en tout cas le plus petit des 150 psaumes. Tout le monde sait de quel psaume ? Le 117, n'est-ce pas ? Le psaume 117 qui dit ceci : Célébrez l'Éternel, vous tous les peuples. Glorifiez-le, vous toutes les nations, car son amour pour nous est puissant. Et la fidélité de l'Éternel est pour toujours. Célébrez l'Éternel. Voilà donc un psaume très très court, très simple, très concis, mais qui dégage un message essentiel, un message de portée universelle. Car il s'agit d'une invitation adressée à tous les peuples de la terre, une invitation en plus motivée. Au verset 1, nous avons l'invitation, et au verset 2, la raison de cette invitation, et ça suffit. Alors voyons d'abord l'invitation. Célébrez l'Éternel, vous tous les peuples, glorifiez-le, vous toutes les nations. Message très clair, une invitation claire. Il s'agit d'un appel à célébrer et à glorifier le Seigneur. Mais il s'agit d'un appel universel, un appel adressé à toute la terre, à tous les peuples, à toutes les nations, à tous les humains. Toute personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son peuple, quelle que soit sa nation, quelle que soit sa couleur de peau, sa culture, son statut social, sa taille, etc., etc., est invitée à se tourner vers Dieu, à célébrer l'Éternel. Certains croyaient que pour faire cela, il fallait être de la descendance d'Abraham par le sang, qu'il fallait devenir juif. D'autres pensaient qu'il fallait aller à Jérusalem, au temple, pour adorer et célébrer le Seigneur. D'autres pensaient que certains étaient prédestinés au salut, tandis que d'autres étaient prédestinés à aller en enfer. Eh bien non. La parole de Dieu nous dit que nous sommes tous les habitants de la terre invités à célébrer l'Éternel, quelle que soit notre origine, quel que soit notre peuple, quelle que soit la couleur de nos yeux, quelle que soit la couleur de nos cheveux, quelle que soit notre condition sociale, que nous soyons riches ou pauvres, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, ça a été rappelé, nous sommes invités à nous tourner vers Dieu pour le célébrer. L'Évangile donc s'adresse à tous, sans exception, à tous les peuples de la terre, et chacun est invité à célébrer Dieu là où il est, là où il se trouve. Ce psaume qui cherche, c'est intéressant de voir que ce psaume qui cherche à condenser l'essentiel de la foi dans un minimum de paroles, de mots, prend pourtant l'initiative de redoubler cette invitation. Comme que pour insister, célébrez l'Éternel, vous tous les peuples, glorifiez-le, vous toutes les nations. Bon, c'est quelque chose de particulier au psaume, n'est-ce pas? On essaie d'insister sur ce qui est essentiel. Il ajoute donc, vous toutes les nations, à vous tous les peuples, qu'il n'y ait pas de doute, c'est un message adressé, une invitation adressée à tous, à toute la terre. C'est un appel universel. Et cet appel universel est un des éléments clés de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'apôtre Paul, qui fut précisément l'apôtre des nations, n'est-ce pas, des nations païennes, cite ce psaume dans sa lettre aux Romains, chapitre 15, verset 11, parmi d'autres textes qui espèrent et annoncent le rassemblement de tous les peuples de la terre autour de Dieu unique. Et vous savez par exemple que dans l'Apocalypse, il y a des versets qui parlent de ce grand rassemblement de gens de toutes les tribus, de tous les peuples de la terre. Et donc l'apôtre Paul cite ce passage, ce psaume, comme une prophétie de l'appel adressé non seulement à son peuple, le peuple juif, mais aussi à tous les autres, aux païens. Chacun est digne de recevoir cette invitation à célébrer et à glorifier l'Éternel. La Bible nous dit que Dieu a choisi de se constituer, de se faire un peuple en appelant toutes les nations à lui, toutes les nations. Certes, à partir d'Abraham, mais dès qu'il a appelé Abraham, il lui a dit, en toi seront bénies toutes les familles de la terre, sans exception, toutes les familles de la terre. Les peuples ont leurs coutumes, ils ont leurs lois, ils ont leur culture, ils ont leur histoire, leurs projets. Et dans notre Église est riche de toutes ces choses-là, n'est-ce pas, de ces cultures, de ces manières même de louer le Seigneur, et nous le vivons dans le respect des uns et des autres. Mais tous sans exception, sont appelés à célébrer l'Éternel. Ce qui réalise donc l'unité du peuple de Dieu, ce qui rassemble les personnes malgré leur diversité, c'est cela, c'est la célébration de l'Éternel, c'est la louange de l'Éternel. Les gens peuvent être ce qu'ils sont, ils peuvent garder leur métier, ils peuvent vaquer à leurs occupations diverses, les plus diverses, ils peuvent continuer à se marier, à élever leurs enfants, à vendre, à acheter, à aller, à venir, mais l'essentiel, c'est qu'ils célèbrent l'Éternel, qui glorifie l'Éternel. L'apôtre Paul, qui est d'accord avec donc l'universalité de cet appel à célébrer l'Éternel, nous interroge toutefois sur le comment de cette invitation. Parce que c'est facile de le dire, que toute la terre célèbre l'Éternel, que toute la terre glorifie le Seigneur. Mais comment? Comment? Et donc l'apôtre Paul pose la question, comment les gens de tous les peuples pourront-ils répondre à cet appel s'ils n'ont jamais entendu parler du Seigneur? Certes, il y a la belle nature qui nous dit des choses sur l'Éternel, mais peut-être ce n'est pas tout à fait suffisant. Comment il le dit dans Romains chapitre 10, verset 12, « S'ils ne connaissent pas cette bonne nouvelle que le Christ nous a donnée, comment feront-ils pour le célébrer ?» Je vais d'ailleurs lire ces versets, à partir du verset 10. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et voilà maintenant la question. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui témoigne? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il attire notre attention sur notre devoir à nous, qui avons déjà l'habitude de célébrer le Seigneur, de ne pas nous arrêter là, mais de faire quelque chose pour les autres aussi. Il faut témoigner. Il faut envoyer des missionnaires, des prédicateurs. Pour que cet appel du psalmiste soit entendu et reçu par chaque membre de la race humaine, il faut que nous fassions, non seulement en tant qu'Église, il faut que nous fassions le nécessaire, n'est-ce pas, pour que l'Évangile parvienne à chacun, mais que nous aussi, individuellement, personnellement, nous fassions le nécessaire pour ceux qui sont autour de nous puissent entendre cet appel à célébrer le Seigneur. Et la Bible nous encourage, au nom de l'amour et de la fraternité humaine, à le faire, à lancer cette invitation à ceux qui sont autour de nous et à ceux qui sont au loin. Célèbre et glorifie l'Éternel. Célèbre-le comme tu l'entends, mais célèbre-le, glorifie-le. Car celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, nous dit la parole de Dieu. Pour ce psaume, donc, l'essentiel se trouve là, dans la célébration de l'Éternel. L'essentiel, c'est de célébrer Dieu et de lui accorder la place qu'il doit avoir dans nos vies, dans la vie de chaque être humain. Le reste est secondaire. Le reste a quand même de l'importance, on le sait. Mais l'essentiel, c'est la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on sait que cela influera sur tout le reste, sur nos actes, sur nos métiers, sur nos relations les uns avec les autres, sur nos loisirs, sur nos choix, sur notre présence au monde. Cela influera sur tous les aspects de notre vie. Car tout cela sera irrigué, n'est-ce pas, par cette source profonde qu'est l'amour et la fidélité de Dieu que nous avons reçue dans nos vies. Notre vie sera donc tout entière orientée vers un seul objectif, la célébration de l'Éternel. Et ainsi, même les plus petits gestes quotidiens de notre vie seront alors, pourrait dire, extraordinairement féconds. Ils porteront des fruits, même les plus petits gestes. Car tout ce que nous le ferons pour la gloire de Dieu, pour le célébrer, pour exalter son nom. Il faut dire aussi que notre réponse positive, la réponse positive de chacun à cette invitation, nous gardera de quelque chose qu'on voit souvent, n'est-ce pas, et qui est terrible aux yeux de Dieu, l'idolâtrie et toutes sortes de matérialisme. Car si Dieu est au centre de notre vie, si nous nous tournons vraiment vers lui pour le célébrer, pour le glorifier, nous laisserons de côté nos idoles, n'est-ce pas? Et on sait bien que nos idoles, surtout aujourd'hui, sont nombreuses. Nous ne mettrons pas notre confiance dans des choses, dans les biens, dans les richesses. Nous pouvons les avoir, bien sûr, mais nous ne mettrons pas notre confiance dans ces choses-là. Notre confiance est en Dieu, celui que nous célébrons, celui que nous glorifions. En fait, ce psaume nous propose un but pour orienter notre existence ici sur la terre, pour orienter l'ensemble de notre être, la louange de l'Éternel, lui faire une place importante, juste, dans nos vies, tout faire pour la gloire de Dieu. C'est d'ailleurs l'appel que la parole de Dieu nous adresse. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Le verset 2 nous donne maintenant la raison de cet appel à célébrer Dieu. Il dit « Célébrez l'Éternel, glorifiez-le, car son amour pour nous est puissant. » Son amour pour nous est puissant et la fidélité de l'Éternel est pour toujours. Et pour toujours. Ce que le psalmiste rappelle ici, et c'est d'ailleurs pour cela, je pense que l'apôtre Paul le cite dans sa lettre aux Romains, c'est que l'amour de Dieu est le premier. L'amour de Dieu est le premier. Il est non seulement puissant, efficace, mais il est le premier. D'ailleurs, Jean, dans ses écrits, nous rappelle aussi que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui a manifesté d'abord son amour vis-à-vis de nous. Et dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. On pourrait donc dire que nous glorifions et nous célébrons l'Éternel car il a montré son amour, sa bienveillance, sa grâce infinie, merveilleuse, sa fidélité envers nous d'abord. C'est lui qui est d'abord venu vers nous alors que nous étions pécheurs et que nous sommes pécheurs à ses yeux. L'unique raison pour laquelle nous pouvons célébrer Dieu, c'est parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime, parce que son amour est puissant et sa fidélité, nous dit le psalmiste, est pour toujours et elle dure à jamais. Et celui qui célèbre Dieu le fait donc parce qu'il a reçu l'amour de Dieu dans sa vie. Il le fait donc avec confiance. La plus grande preuve de l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ qui a été envoyé parmi nous pour nous sauver de la condamnation éternelle. Vous savez, certains considèrent ce psaume 117, dans certaines versions c'est le psaume 116, ce psaume 117, qui est donc le plus court, comme une introduction aux deux autres psaumes qui suivent, le 118 et le 119. Si vous jetez un regard au psaume 118, vous allez voir qu'il s'agit encore d'une louange à Dieu pour sa miséricorde qui dure à toujours. Et ce refrain est répété souvent, n'est-ce pas? Car sa miséricorde dure à jamais. Et le psaume 119 est une louange à Dieu, et le psaume 119 est un long poème sur la beauté de la parole de Dieu. Et de la nécessité, donc, de mettre la parole de Dieu en pratique, mettre en pratique les commandements de Dieu. Alors, je pense que cela nous rappelle que la louange, la célébration de Dieu n'est pas finalement déconnectée de notre vie de chaque jour. Elle n'est pas déconnectée de nos actes. Hein. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on fait le dimanche matin quand nous nous trouvons ensemble. Elle n'est pas déconnectée de notre façon de vivre chaque jour. Parce que la Bible nous montre bien les deux choses sont intimement liées. On ne peut pas louer le Seigneur le dimanche et vivre n'importe quoi, n'importe comment, les autres jours de la semaine. Ça c'est incompatible pour le Seigneur, n'est-ce pas? Mais avant donc de se lancer dans cette méditation sur notre façon de vivre, le psalmiste nous donne cette promesse que l'amour de Dieu, l'amour de l'Éternel est puissant et fidèle, car c'est cela la base de tout. Et c'est sur cela que nous devons nous appuyer. C'est donc avec confiance que nous pouvons nous lancer dans la vie, malgré, on le sait bien, nos imperfections, nos erreurs, car l'amour et la fidélité de Dieu nous accompagnent et nous gardent. Nous pouvons compter sur son amour, sur sa fidélité, pour nous relever, même lorsque nous ne mettons pas toujours en pratique la parole de Dieu, lorsque nous tombons, pour nous éclairer lorsque nos yeux seront troubles, pour nous fortifier lorsque nous serons faibles. En fait, le psalmiste nous dit que l'amour de Dieu, en tout cas nous rappelle que l'amour de Dieu est puissant et efficace sur nous. C'est lui qui agit en nous et qui nous motive. C'est lui qui fait de nous une famille chrétienne, comme le dira Jésus en présentant Dieu comme un père qui nous aime, n'est-ce pas? Dieu est notre père, nous sommes une famille, nous sommes des frères et sœurs. C'est lui qui fait de nous un peuple, pour citer l'apôtre Pierre, qui fait de nous un peuple qui célèbre les œuvres magnifiques de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est lui qui fait de nous une église, un corps, le corps de Christ sur la terre avec cette mission d'inviter tous les autres peuples, tous les autres qui sont à l'extérieur à venir rejoindre l'église pour célébrer le Seigneur. L'amour de Dieu est un amour fidèle, un amour qui demeure même s'il est déçu, même s'il est oublié, même s'il est mis de côté, car cet amour s'est manifesté en Jésus, n'est-ce pas? Jésus qui a été trahi, qui a été oublié, qui a été abandonné, qui a été même exécuté, mais qui a continué toujours à pardonner et à sauver le monde et à manifester sa miséricorde, son amour puissant et efficace. Célébrez l'Éternel, car son amour pour nous est puissant et la fidélité de l'Éternel est pour toujours. Le Dieu unique, l'Éternel, est un Dieu dont l'amour est puissant et dont la fidélité est sans borne. Dieu est comme ça. C'est sa façon d'être. C'est sa façon de se manifester à nous. Il est le seul qui mérite notre adoration. Il est le seul que tout être humain doit célébrer. Voilà l'enseignement que nous pouvons retirer de ce psaume. Son amour est efficace, son amour est fidèle, son amour est un amour qui agit, c'est un amour qui crée, un amour qui s'inscrit dans la durée, avec patience, avec persévérance, avec fidélité. Voilà pourquoi le psalmiste revient au début, en reprenant son invitation du début pour conclure, célébrer l'Éternel. Célébrer l'Éternel. Dans ce cri réside la mission particulière de chaque personne vivante sur cette terre. Reconnaître en Dieu la source de l'être, la source de la vie, et en témoigner partout afin que chacun puisse le reconnaître à son tour et puisse célébrer l'Éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce psaume. Nous voulons te remercier parce qu'il nous rappelle quelque chose d'essentiel. Que nos vies ici-bas, Seigneur, doivent être des vies qui te célèbrent, qui te glorifient. Des vies tournées vers toi. Des vies qui mettent ta personne au centre, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de t'avoir manifesté à chacun de nous. Et de nous permettre chaque jour, Seigneur, de nous tourner vers toi pour te célébrer, te glorifier. Mais nous voulons aussi, Seigneur, te demander de nous permettre de témoigner autour de nous, d'inviter tous ceux qui vivent autour de nous à faire de même, Seigneur, à se tourner vers toi. Merci, Seigneur, pour le message de ce psaume. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.